Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto et surtout au 60e anniversaire de la Ford Mustang. Ça a été évidemment la nouvelle cette semaine. Quoique c'est pas une nouvelle parce qu'on savait que c'était l'anniversaire de la Mustang.
Ça faisait 60 ans qu'on s'en doutait un petit peu.
Exactement. Je te dirais que dans 10 ans d'ici, il devrait avoir le 70e aussi. Ça devrait arriver prochainement.
On a 10 ans pour se préparer.
Ce qu'on attendait de pied ferme, c'était évidemment le dévoilement du budget fédéral. Louis-Philippe, on se demandait, bien sûr, si les crédits fédéraux pour véhicules électriques allaient être maintenus, augmentés ou diminués. Et puis, de mon côté, j'avais parlé avec quelques constructeurs qui souhaitaient, bien sûr, que les crédits demeurent parce qu'il y a de forts lobbies, évidemment, au Canada, de constructeurs qui, installent ou sont sur le point d'installer des usines de voitures électriques ou de batteries de voitures électriques. Bon, tout le monde a entendu parler de Nordvolt, bien sûr, qui s'installe sur la rive sud de Montréal.
Mais dans le sud de l'Ontario, tout se brasse aussi
ben,
pour
oui,
les usines
d'assemblage. Windsor avec Chrysler, l'usine d'Oakville chez Ford, puis Volkswagen qui installe sa nouvelle usine de batteries à Saint-Thomas. Donc, là où il y avait une usine de Ford à l'époque, d'ailleurs, où on fabriquait la fameuse Crown Victoria. Alors, comme quoi les époques changent. Donc, il y a un gros lobby et ça fait en sorte qu'ils ont eu gain de cause essentiellement. Les crédits demeurent pour la prochaine année du moins, là, pour le moment.
Oui, c'est 5 000 $ le crédit fédéral au maximum. Hein. On a jusqu'à 5 000 $ pour les véhicules électriques, également pour les véhicules hybrides rechargeables qui ont 50 km et au-dessus d'autonomie. Baisse à 2 500, c'est pour 49 km et en dessous. Mais comme tu dis, ça reste pour 5 000 $ jusqu'au 31 mars 2025, encore une autre année. Contrairement à ce qu'a annoncé Québec là, pour ses crédits, on pensait que peut-être que ça allait suivre avec le fédéral, mais je pense que les plans, exactement comme tu dis, des lobbies des constructeurs a quand même eu un effet sur ça.
Et c'est fascinant parce que on a déjà parlé, mais tu reviens, tu sais, t'es un constructeur automobile, puis tu vois les provinces changer d'idée, le fédéral maintenir la chose, parce que là, on a annoncé récemment que le Manitoba allait offrir des crédits pour véhicules électriques, que la Saskatchewan allait taxer les véhicules électriques, que l'Alberta le fait déjà. La Colombie-Britannique, ben, c'est selon le revenu de l'automobiliste. Puis au Québec, ben, on a annoncé récemment une baisse progressive des crédits au cours des prochaines années jusqu'à un crédit zéro en 2027. Ouais. Donc, c'est assez particulier. Le Nouveau-Brunswick aussi qui propose des crédits qui sont un peu moindres. Alors, quand tu es un constructeur automobile et tu essaies de placer tes pions, là, mais c'est comment tu fais pour gérer ça?
Avec Ford, justement, à Oakville, on a mis les plans sur la glace pour tout de suite. Là. C'était quelque chose qui était supposé d'arriver immédiatement en 2025. En 2025, là, ça a été repoussé à 2027. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. C'est sûr que la réglementation a énormément d'influence, oui. Mais également le fait qu'on inclut maintenant les hybrides rechargeables de plus en plus. Au début, on partait seulement les VZE, c'était seulement des véhicules zéro émission. Là, maintenant, on a comme inclus de plus en plus dans la législation les hybrides rechargeables. Puis ben, les constructeurs, ils disent, ben, nous autres, on a des moteurs thermiques pour des hybrides rechargeables. On n'a pas besoin nécessairement de toutes les infrastructures pour assembler des véhicules comme ça. Donc, ça ralentit un peu les plans.
Ça ralentit les plans, puis les constructeurs se gardent des portes de sortie. On en prenait encore cette semaine que Jeep allait lancer un Wagoneer S qui serait peut-être offert avec un moteur à combustion.
Ben oui.
Oh, surprise! moi, ça me donne pas mal l'impression qu'on s'en vient remplacer le Cherokee avec ce véhicule-là pour en faire un véhicule plus compact, un peu plus de luxe. C'est un produit qui va peut-être se comparer, je sais pas moi, à quelque chose comme un Range Rover Evoque. peut-être ou ce genre de produit-là. Donc, tout électrique ou pas. Et ça serait logique parce qu'essentiellement, c'est la même plateforme qu'une Charger qui va, elle aussi, être offerte autant avec un moteur à combustion qu'un moteur électrique. Alors, tu vois que les constructeurs commencent à jongler puis à faire « OK, wow, minute, là, on peut-tu revenir sur Terre? »
Ouais.
C'est très partagé comme avis. Puis c'est très, puis c'est drôle parce que, bon, cette semaine, écoute, on a vu l'essence grimper 1,90 $ le litre alors qu'on annonçait la venue du salon du véhicule électrique de Montréal. Mm-hmm. Puis j'entends déjà les conférenciers au salon du véhicule électrique en fin de semaine. « Vous, le prix du gaz, c'est-tu pas extraordinaire? » C'est bon, ça va être ça, là. C'est une situation. Ça divise de plus en plus les clans, moi, je trouve.
Ouais. Bah, de toute façon, on savait qu'on était dans une situation de transition, que la transition ne serait pas brutale, qu'on n'allait pas passer au 100% électrique d'un claquement de doigts. Bon, bah, c'est relativement logique de voir que la transition se fait un peu plus lentement que certains avaient imaginé. Ça n'a rien de choquant pour le moment. On va aller vers ça de toute façon. Ça sera peut-être moins fort, moins vite qu'initialement prévu, mais.
Mais voilà, c'est ben, tout. Le timeline est toujours discutable. Moi, je trouve, je suis du clan qui pense que le fait qu'on a mis de la pression beaucoup au début a permis de développer des technologies de batterie qui permettent aux hybrides rechargeables également d'offrir plus que 50-60 km. Peut-être que ces hybrides rechargeables-là pourraient pas aujourd'hui faire ce kilométrage-là si on n'avait pas mis beaucoup de pression pour développer ces grosses batteries-là de véhicules électriques.
Bon, en même temps, signerais-tu un chèque de 62 000 $ pour acheter un Outlander PHEV, ou 64 000.
Ils sont dispendieux.
C'est ça, financé à 7 %. Ouais. C'est sûr que quand tu viens mettre un incitatif de 10 000, tu connais du succès. Mais commence à enlever des billes là-dedans, là. Les gens vont commencer à calculer un peu plus.
Ouais.
Puis les gens font de moins en moins de kilométrage. Donc, tu sais, OK, l'essence est à 2 $ le litre, mais financièrement parlant, si on parle purement sur le plan pécunier, écoute, si ça te coûte un petit peu plus cher d'essence que l'année passée, mais que tu roules moins, puis que ça ne te coûte pas plus cher en assurance, les installations, quand tu commences à tout calculer sur un véhicule électrique, je ne parle pas du rendement énergétique, mais quand tu commences à tout calculer, tu te rends compte que l'assurance, ça fait mal aussi. Là.
Pour le moment, là, c'est quelque chose.
Mercedes-Benz.
J'ai une autre affaire, parlant de millage aussi, parlant de kilométrage. On a des investissements aussi pour les bornes dans le budget fédéral qui a été annoncé.
Ah, oui, c'est vrai, on allait oublier ça.
Il faut le mentionner parce que c'est quand même une grosse enveloppe qui est $1 milliard pour l'installation de bornes de recharge. Là, c'est pas détaillé, là, les bornes de recharge haute vitesse, mais également la rénovation. Encourager la rénovation d'infrastructures comme les multilogements, parce que 80% de la recharge se fait à la maison, donc il faut quand même rénover ça, mais c'est pas tout le temps évident. Non
plus. J'allais dire, on rénovera pas un réseau qui est inexistant, là, parce que. Parce que si au Québec.
On appelle.
Parce qu'au Québec, on a quand même un réseau de bornes de
ajout.
Recharge. Ouais, c'est ça.
J'utilise les mots du gouvernement.
On a un réseau au Québec qui est quand même assez solide, puis qui est relativement fiable. Ah, il faut quand même mentionner ça, que le circuit électrique du Québec, ça fonctionne.
C'est solide.
Des fois, il y a des bornes qui sont installées à côté d'une piste cyclable, puis tu peux pas utiliser le câble pour traverser la piste cyclable. Mais ça, c'est deux jambons à la ville de Montréal qui se sont pas parlé. C'est des cas d'exception. Mais règle générale, les bornes, ça fonctionne bien. Mais va en Ontario, Electrify Canada, une fois sur deux, tu viens pour te charger, puis tu veux donner le coup de poing dans la borne parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne vraiment tout croche. En plus, le réseau est, compte tenu de la densité de la population, il est embryonnaire par rapport à ce qu'on a ici. Mmh. Alors, il y a énormément d'investissements à faire dans le reste du pays rapport à chez nous au Québec. Ça, c'est évident. Maintenant, $1 milliard, c'est difficile de quantifier ce que ça signifie en termes de quantité de bornes et de type de bornes qu'on va avoir.
Au niveau du pays, là.
Au niveau du pays tout entier, on s'entend que tu vas peut-être en mettre un peu moins à Calgary qu'dans le centre-ville de Toronto, là.
Oui.
Calgary, un véhicule électrique, là-bas, tu te fais presque tirer des roches, d'après moi.
La valeur de revente doit pas être terrible après 3 ans.
Là. Non, hein, c'est moyen. Une petite Fiat 500 électrique, là-bas, là.
Ouais.
Hein, si tu veux te faire des amis, c'est une super bonne idée.
Vas-y, mon Jean-Charles.
Mercedes-Benz EQB.
Ouais, EQB qu'on avait présenté à l'émission du Guide de l'Auto il y a quelques mois. Et bon, d'une part, un véhicule qui ne nous a pas impressionné du tout, mais d'autre part, un véhicule qui était démesurément trop cher, qui ne se qualifiait pas au crédit. Entre-temps, on est revenu à la charge chez Mercedes en disant « On va avoir un modèle EQB250+ oui. traction avec 188 chevaux. » Ça, pour ta gouverne, c'est moins de puissance que dans ma Chevrolet Bolt, mais dans une Mercedes que tu payes minimalement 60 000 $
Et ça, tu peux avoir une troisième rangée en option.
Oui, oui. Et attends, c'est ça. Et tu peux rajouter...
On va avoir 7 personnes
et
dedans.
Et tu peux
là,
rajouter beaucoup d'options. Là. Fait que, tu sais... T'achètes vraiment l'emblème, puis ouais. le look, parce que le look est réussi, là, on va dire ça, mais c'est pas un véhicule électrique très impressionnant, l'autonomie est pas là non plus.
En fait, on parle souvent de look chez Mercedes-Benz, puis je croyais que le EQB, il était plus réussi que, par exemple, le EQE ou le EQS, qu'on parle que
ouais.
le papier sablé passait un petit peu trop souvent. Le EQB était plus fidèle à sa version thermique. Quand ils l'ont sorti.
Oui, oui, ouais, absolument. Ben, ouais. En fait, c'est un GLB.
C'est un GLB avec un avant de QS.
Oui, absolument.
Mais,
grosso modo.
Et essentiellement, agréable parce que silencieux et mieux balancé qu'un GLB, parce que le GLB, tu as quand même un certain tangage, alors qu'avec ça, ben, tu as un centre de gravité plus bas, donc forcément. Mais c'est plus lourd. Puis, côté autonomie, on n'est pas là. Côté puissance, on n'est pas là. Côté prix, on n'est pas compétitif. Là, ce qu'on vient d'annoncer, c'est un EQB 300, 4 roues motrices, qui se qualifie aussi.
Ben ouais, ben
partiellement, par contre.
Partiellement, c'est ça. C'est parce que c'était un problème stratégique. Là. Il était quoi, 75 700 $ le EQB 350?
Je te dirais que ce n'est pas le seul problème stratégique qu'on a chez Mercedes, mais ça, c'est une histoire.
Ouais. C'est ça.
T'as une heure de plus.
On en a beaucoup. Ah ouais, c'est fort. Arrivé à nos essais à un moment donné, EQB 350, c'était 75 700. Hein, donc, c'était très, très, très dispendieux pour ça.
Attends, 75 700, essaye de trouver une version à ce prix-là parce que chaque fois que j'en ai vu un avant, c'était 86, 88, 91 000.
Ouais.
Celui qu'on avait eu en essai pour l'émission de télé, c'était 90 000 tout juste. Aïe, tu regardes ça, ça a l'air de rien. Là.
Ouais.
C'est pas. Alors, tu sais, il y a personne qui aurait choisi ça avant un Tesla modèle Y là, qui coûtait 20 000 $ de moins. Là, tu sais, donc.
Ouais.
On l'avait échappé complètement.
288 chevaux, 384 livres-pieds de coupe. Ça, c'était avec le 350. On avait seulement 356 km d'autonomie aussi, mm-hmm. fait que c'est très difficile. Puis, une puissance de recharge de 100 kW seulement pour la recharge rapide. Là, en ce moment, là, Hyundai est dans les 225, Porsche est beaucoup plus haut, etc. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement, comme qu'on dit, essentiel d'avoir une capacité de recharge.
Hyundai et Porsche. Ouais.
Ben Mercedes, par exemple, avec des capacités de recharge.
Non, mais on est là parce que c'est effectivement Hyundai qui fait de la bonne job.
Qui fait de la bonne job, Puis, ben maintenant, justement, avec le nouveau EQB 300, on a diminué la puissance 225 chevaux, 288 livres-pieds de couple. La capacité de la puissance de recharge reste la même, sauf qu'on a une autonomie encore plus bas de 340 km. On n'est pas encore compétitif. Le prix... est rendu à 5 995 $ donc
comme par hasard.
Qualifié comme par hasard.
Mais 225 chevaux pour un véhicule de ce format-là en tout électrique avec le poids que ça implique.
Qui peut avoir une troisième rangée en option pour 7 personnes.
Puis attends.
Tu l'aimes, tu as une troisième rangée.
Mais c'est parce qu'avec deux, ça en force.
Ouais, c'est ça. Non, on est bien d'accord.
Non, puis c'est parce que le poids de ce véhicule-là est considérable. Là. C'est sûr que c'est pas, ça ne sera pas effrayant. Puis c'est pas donné quand même. Tu as beau avoir l'étoile dans la calandre. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné. Fait que c'est peut-être trop peu, trop tard en ce qui me concerne, mais au moins, on essaye. On essaye de mettre
de se positionner un peu là, pour offrir un produit, puis c'est ça.
Comment vous appelez ça, des plasters en France, des sparadraps?
Des pansements.
Des
sparadraps aussi.
Des sparadraps, c'est ça qu'on dit. Alors, on essaie de mettre des sparadraps sur les petits bobos. Bon, on va y parler, là. 60 ans de la Mustang.
Yes.
T'as remarqué que j'ai amené ma propre Mustang, la seule que j'ai jamais possédée. Une Boss 302 2012, que j'ai adoré. Voiture extraordinaire, 444 chevaux, très, très agréable à conduire. Oh, c'était vraiment une belle machine. Que je regrette un peu, amèrement. Mais Ford a évidemment profité de l'occasion pour... annoncé cette semaine une édition commémorative de la Mustang ô combien surprenante, édition 60e anniversaire, disponible en trois couleurs, bleu, blanc, rouge.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec le CH. et tu peux l'avoir décapotable ou coupé.
Oui.
Mais le truc, le fun là-dedans, c'est qu'ils en font 1965. De ce nombre, à peu près 10% vont venir chez nous au Canada.
Mm-hmm.
Donc, essentiellement autour de 200. Ou en tout cas, 196,5, si on calcule.
Exactement.
Bon, c'est ça. Et là, quelles seront les versions qui vont être les plus rares? Tu vois déjà les amateurs dire, OK, mais moi, j'ai le coupé en telle couleur, avec telle boîte.
Écoute, on voit tout de suite les pancartes dans les expositions automobiles.
Ouais, 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 devant ouais, les véhicules.
Une de 22 avec telle code couleur.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais essentiellement, c'est une Mustang GT Premium avec un habillage un peu unique.
Ouais, jante, exactement.
Bande décorative, grille de calandre. Un peu à la California Special.
Mm-hmm. Ouais, avec les bandes. Là,
justement, ouais, beau look, là, c'est correct.
Oui.
On n'aura pas de On n'aura pas plus que ça pour les 60 ans de la Mustang, mais on va le souligner de belle façon, bien sûr, parce qu'il y a aussi une nouvelle génération qui a été lancée un peu plus tôt pour l'année modèle 2024. Et au Québec, ben, il y a ceci de particulier. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais on est à organiser le plus gros rassemblement de Ford Mustang qui a jamais eu lieu. Et toutes ces voitures-là vont partir en convoi, c'est-à-dire que de la porte du Plessis à Trois-Rivières, le 5 mai prochain, il y a 2100 Mustangs qui vont quitter l'endroit et qui vont se rendre au Centre des Foires de Québec. C'est un dimanche matin, par escorte policière. Imagines-tu le bordel? Qu'il va quand même falloir laisser passer ces 2100 voitures avec des gens qui sont peut-être pas toujours prêtes, avec Colette qui veut aller aux toilettes, avec, tu sais, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer.
Est-ce que les Mackie sont invités?
En fait, il y aura des Mustang Mackie, mais qui vont être en queue de peloton.
OK.
Mais sont acceptés. Et on a décidé d'arrêter les inscriptions à 2100 véhicules parce que ça devenait chaotique. Moi, ce que je trouverais...
C'est impressionnant.
Ce que je trouverais cool, c'est qu'il y ait 76 Mustangs qui ne fassent pas la job, ce qui fait qu'il y a 2024 Mustangs qui passeraient la ligne d'arrivée à Québec.
Mm.
Mais ça, c'est dans mes rêves les plus fous et complètement inutiles. Alors, mais oui, il y aura des Mustangs de toutes les origines, de toutes les versions. Tu sais, bon, j'imagine que des Mustangs 74, 4 cylindres de 88 chevaux, il n'y en aura pas énormément.
Non, ça peut être très populaire.
Mais,
si, ça a été très populaire, ouais, mais il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui.
Il n'en reste plus beaucoup.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont gardé ça. Quand les gens ont réalisé que c'était des Pinto en dimanche, peut-être pas. Bref, on aura la chance de voir toutes ces Mustangs-là. Alors, moi, je serai sur place pour la ligne de départ. J'ai même réservé une voiture d'essai qui était une Mustang GT 2024 décapotable pour être présent sur place.
Eh bien.
Mais je ne suivrai pas le cortège. Je vais me rendre directement à Québec parce que, rendu sur place, je ferai une chronique à Salut Bonjour. On va voir les voitures arriver parce que le Centre des Foires et Salut Bonjour, ben, c'est tourné essentiellement. Salut Bonjour est tourné juste à côté. Et donc, on va voir les bolides arriver un après l'autre. Évidemment, ça va être un petit extrait de ce qui va se passer parce que on restera pas avec la caméra à regarder passer 2100 voitures.
Alors, donc là, c'est une 85 bleue et maintenant une 73 orange.
C'est ça.
C'est merveilleux.
Ça, c'est plus long que l'émission Salut Bonjour au complet.
C'est ça.
Fait qu'il faut juste relativiser.
Une parade de chevaux, à un moment donné, ça s'arrête.
C'est ça, exactement. Mais évidemment que ça a lieu dans le contexte. Les voitures s'en vont là dans le contexte du Salon Autosport Québec qui a lieu dans le Centre des Foires durant ce week-end-là, 3, 4, 5 mai. Et donc, bien sûr qu'à l'intérieur des murs, il y aura des Mustangs d'exception.
Vraiment,
tout ça,
des Mustangs de course
mais
aussi.
Mais c'est sûr que ça va être le sujet du week-end, l'histoire des Mustangs, tout le monde qui va se comparer. J'ai juste hâte de voir si les gens, vont suivre, vont être prêts pour suivre la parade. Puis, tu sais, on voit souvent ça, là, si vous regardez les stories sur Instagram, des gars qui font des décollages pas toujours très contrôlés avec des Mustangs, et qui vont frapper une autre voiture,
l'autre soir. Ça n'arrivera pas.
Il va-tu en avoir un ou deux de ça? Je sais pas.
On est responsable. On aime nos Mustangs en Québec, on en fait attention.
Statistiquement,
c'est inquiétant.
J'ai envie de te dire qu'il y a une couple de rimes qui vont se faire abîmer. Bon. Mais on espère que tout va se passer de la bonne façon parce que c'est un record Guinness qu'ils veulent établir. Alors, cet événement-là va se retrouver dans le record Guinness.
Donc, c'est le plus gros rassemblement de Mustangs.
Je ne sais pas si c'est le plus gros rassemblement, mais c'est le plus gros rassemblement en déplacement.
OK, d'une place à l'autre, d'un point A à point B.
C'est ça, parce que j'imagine qu'il y a déjà eu plus que 2000 Mustangs sur un site.
Ben, c'est sûr. Là. Puis il va y avoir un certain nombre de kilomètres là, qui est calculé pour le record, j'imagine.
Ben, Trois-Rivières-Québec, ça ressemble pas mal à ça. Fait que, mais tu sais, moi, j'ai surtout hâte de voir sur le boulevard Hamel à Québec, quand toutes les voitures vont sortir de l'autoroute, les lumières vont être synchronisées au vert tout le long pour les Mustangs?
J'espère
que ça va arrêter. Ou est-ce qu'il y a des gens qui vont arrêter au Tim Horton avant de. Est-ce que tout le monde va être discipliné? Ça va-tu être à suivre?
T'as intérêt à être rentré dans le salon avant qu'ils arrivent, parce que là, après, là, bonne chance.
Oui, effectivement. Fait que voilà. Rivian, qui officiellement arrive au Québec avec un premier point de vente.
Oui.
Et le hasard fait bien les choses, puisque c'est le produit dont on parle ce week-end à l'émission du Guide de l'auto sur TVA 11h30. Excellente plug, merci. On a essayé un Rivian R1T, Gabriel et moi, en situation hivernale.
Oui.
On a poussé la machine un peu pour voir ce que ça avait dans le ventre. Puis évidemment que actuellement, bon, au Québec, on n'a pas encore nécessairement l'impression d'une marque qui est sur une forte lancée quand on parle de Rivian, parce qu'on n'en voit à peu près jamais.
Ben non.
Mais aller en Californie, vous en croisez tous les 30 secondes. Là. Il y en a partout.
Ouais.
Là. Ouais. On en a vendu
100 000.
C'est ça.
100 000 dans la dernière annonce, là, mais là,
ça
continue.
Il y avait 85 000 véhicules découlés au 1er janvier, évidemment...
Évidemment, ça inclut les véhicules commerciaux, avec Amazon, puis tout ça. Là, c'est quand même une bonne balle chez Rivian.
Mais l'annonce du R2, du R3X, ça aussi, ça augure bien.
Ouais.
Rivian débarque au Québec, c'est disponible, alors les gens peuvent commencer à s'en procurer.
Mm-hmm.
Ça fonctionne un peu à la façon de Tesla, honnêtement. Là, vous allez sur le site web.
Surprise.
Vous pouvez. Le modèle d'affaires est très, très semblable à celui de Tesla.
Ouais.
Et je te dirais que le produit est tout à fait charmant. Bon, évidemment, on peut se laisser aller dans les options puis faire grimper ça à des prix mirabolants.
Oui. Mais différent comme produit qui se démarque. Là, définitivement.
Ça se démarque. Ouais. C'est très lourd, mais en même temps, le véhicule est capable.
Ouais.
Puis, au niveau de... Bon, évidemment, tu peux prendre une batterie de 180 kWh. Ça, c'est extrême.
C'est pas celui-là qu'ils vendent.
C'est pas celui-là qu'ils vont vendre, parce que de recharger ça aussi, c'est interminable. Il faut vraiment que tu aies besoin de ça.
Mm-hmm.
Je pense que l'équilibre est à 130. Là. Puis déjà,
quand même une grosse batterie.
Qui est quand même une grosse batterie, parce que recharger ça sur une 32 ampères à la maison, c'est interminable.
Ouais.
Ça te prend quelque chose de plus performant que ça. Mais c'est quand même un produit impressionnant. Vous allez voir ça en fin de semaine. Et finalement, ça arrive au Québec.
Compagnie qui devrait avoir les reins solides à partir de maintenant.
En tout cas, un peu plus que Fisker.
Ben, on sait, tu sais, toutes les compagnies de voitures électriques, de véhicules électriques, on le voit dans les voiles, ont eu le même parcours. C'est commencer en restant loin des moteurs thermiques, en profitant des crédits, en vendant des crédits à d'autres constructeurs et en étant extrêmement patient et en perdant de l'argent à tous les véhicules.
C'est clair.
Et en étant très bien financé. Hein, on sait que Rivian, ça appartient 16% à Amazon. Amazon qui est une petite compagnie, je ne sais pas si vous connaissez.
C'est du PME, ça va bien de ce côté-là.
Ouais. C'est cool,
qui a quand même participé au lancement de Rivian. Donc, au début, on se disait, bon, il y a certaines startups électriques qui ont c'était un feu de paille, mais maintenant, je pense que Rivian est rendu... On peut la prendre au sérieux. On ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, si les concepts vont voir le jour, mais c'est quand même quelque chose que moi, j'ai hâte de voir fleurir. Là.
C'est drôle que tu me parles d'Amazon, parce que tu sais ce que j'ai trouvé sur Amazon cette semaine?
Hmm?
Une poignée de portes de Honda CRX. Je n'étais pas capable d'en trouver sur eBay. C'est, sur Amazon, toc, 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 c'est sorti. Merci, choisis ta couleur, clique, merci, bonsoir.
N'importe quoi.
C'est incroyable.
Ben ouais.
C'est incroyable. Un dernier mot avant de passer à la pause sur le salon du véhicule électrique qui a lieu évidemment en fin de semaine. Il y a quand même, les constructeurs ont mis l'épaule à la roue là, pour amener des nouveautés. Là. La nouvelle Charger est là.
Le prototype, là, le concept Charger.
Le véhicule
Charger,
concept est là.
Un petit peu plus
je vous
gros,
invite d'ailleurs à aller voir l'environnement dans lequel cette Charger-là va se trouver. Parce qu'elle va se trouver sous un espèce de carport qui est fait de panneaux solaires, qui est une invention d'un Québécois qui s'appelle Jean-François Desalliers, qui a vraiment développé une technologie intéressante pour pouvoir emmagasiner de l'énergie à domicile et essentiellement recharger ton véhicule électrique, voire même ton garage, de façon complètement indépendante d'Hydro-Québec.
Okay.
Fait que ces installations sont quand même assez bien faites, mais évidemment que plus la technologie avance, plus on peut avoir des panneaux solaires qui sont de plus en plus accessibles parce que au Québec, l'électricité est pas chère, la lumière est pas celle de la Californie, puis pour emmagasiner une certaine énergie ou pour pouvoir être complètement autonome, bon, c'est pas nécessairement tout le temps évident, mais c'est quand même une technologie novatrice qu'on va voir se développer pas mal, je pense, sur les maisons du futur. Puis c'est installé comme ça avec la Charger en exposition. GM aussi, bon, ben, on entend Marie Le Wolf à la radio là, nous dire qu'elle va être présente au salon du véhicule électrique.
Le Silverado qui va être là.
Ben, qui
là
l'an dernier,
finalement.
Mais le modèle nord-américain de l'idée-base aussi, qui était sur le guide de 2023.
C'est ça.
X30, X90 du côté de Volvo. Là, j'en passe. La Fiat 500E qu'on a parlé la semaine dernière. Puis, bon, mais toutes les autres voitures qu'on connaît bien, là, certaines vont pouvoir être mises à l'essai, d'autres vont être seulement exposées, mais nous, on va être là, le guide de l'auto tout le week-end.
Mais j'ai hâte de voir l'engouement qu'on va avoir au salon ce week-end.
Ouais.
Parce que, tu vois, les ventes sont modérées, mais en même temps, c'est la dernière année des pleins crédits, donc les gens ont peut-être ce sentiment d'urgence de dire « OK, c'est là où... »
C'est ce dont on a discuté il y a quelques semaines. Ça va être une bonne façon de jauger un petit peu ce qui s'en vient.
Oui,
c'est ça, exactement.
J'ai hâte de parler avec les gens et savoir c'est quoi leurs intentions d'achat. Mm.
Voilà.
Le guide de l'auto.
Cette semaine, Hugues, tu nous parles d'une voiture que je chéris tout particulièrement parce que j'ai pu en voir plusieurs exemplaires au cours de ma vie, évidemment dans des musées, dont un seul qui était fonctionnel parce que ces voitures-là ont une technologie assez particulière et je parle bien sûr de la Chrysler Turbine, voiture qui a été inaugurée 62?
Les premiers prototypes, on va y venir, ont été montrés en 61 puis vraiment elle a pris son envol en 63.
Et moi, j'ai chez moi, j'aurais dû l'amener d'ailleurs pour la montrer, mais j'ai chez moi une brochure en français de la Chrysler Turbine.
Que j'ai aussi.
Qui est très rare. Et on dit qu'à l'époque, cette voiture-là avait fait la tournée des concessionnaires québécois en démonstration avant qu'on apprenne que finalement, il n'y en aurait jamais. Là.
C'est ça.
Mais essentiellement, c'est la voiture que tu nous présentes cette semaine.
C'est ça. Alors la question, c'est est-ce que vous avez déjà vu un véhicule à réaction sur la route? Eh bien, si les choses avaient bien tourné, c'est ce qui aurait pu arriver. Mais les développements technologiques n'ont pas supporté les rêves et les espoirs des ingénieurs et des managers de Chrysler.
Bon, et l'idée d'amener une voiture et d'installer une turbine à bord de ce véhicule-là plutôt qu'un moteur conventionnel, c'était quoi? Parce que la voiture était très élégante en plus. Là.
C'est ça.
Donc, ça, le fait d'avoir une turbine et avec une partie arrière qui était très particulière, ça y donnait un sacré look. Là.
En fait, il faut se souvenir que dans les années 50, le style est très fortement influencé par l'aéronautique, mais pas seulement le style. L'un des développements majeurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est le moteur à réaction. Et plusieurs constructeurs considèrent que cette technologie pourrait se retrouver sous le capot d'une auto. General Motors, Ford, Fiat et Rover travaillent sur des autos utilisant une turbine à la place du moteur classique. Mais au cours de cette décennie, c'est Chrysler qui va prendre la tête dans ce domaine grâce à un homme, l'ingénieur George Huebner. Ce dernier est l'inventeur d'un échangeur de chaleur rotatif qui offre le double avantage d'améliorer la consommation et de réduire la température des gaz de sortie, un problème jusqu'ici insoluble.
Ok.
Les premiers essais sont réalisés fin 1953. Une deuxième génération de moteurs est présentée en 1956, puis une troisième en 1960.
Ah ouais.
Ce sont alors des Plymouth et des Dodge à peine modifiés qui reçoivent ces moteurs. Les choses changent avec la présentation de l'extravagant concept Turbofly de 1961. devant la réaction du public et les bons résultats obtenus en essai, Chrysler décide d'aller plus loin.
Et là, on souhaite essentiellement prendre le prototype et en faire un véhicule de production. Là. C'est un peu l'idée. Là.
Exactement. Le 14 février 1962, Chrysler annonce qu'elle construira entre 50 et 75 automobiles à turbine et que ces autos seront disponibles sans frais pour des constructeurs sélectionnés d'ici la fin de 1963.
Quand tu dis des constructeurs sélectionnés...
Des conducteurs.
Conducteurs, excuse-moi.
Mon erreur.
OK.
Des conducteurs, effectivement. Le but est d'évaluer cette technologie dans des conditions d'utilisation variées et réelles. Pour cela, Chrysler ne se contentera pas d'adapter des autos existantes, mais fera dessiner un tout nouveau modèle sous la houlette de Elwood P. Engel.
OK.
Si la turbine présente des similarités avec la Ford Thunderbird 61 et 63,
ouais.
C'est pas tout à fait fortuit puisque Engel avait travaillé chez Ford de 1947 à 1961 avant de prendre le poste de directeur du style de Chrysler.
On reconnaît effectivement qu'il y a des traits provenant de la Thunderbird.
Il y a une petite patte.
N'empêche, c'est une voiture magnifique, ah. Là. C'est une voiture vraiment magnifique. Jusque dans les moindres détails.
On va y venir.
Franchement, c'est un look qui est complètement réussi, là.
Absolument. Les lignes de l'auto sont vraiment spectaculaires. Les phares avant donnent l'impression d'être des entrées de réacteurs. Et il y a un incroyable décroché dans le coffre arrière qui laisse la place à ce qu'on croit être deux sorties de turbopropulseurs. En fait, les échappements réels sortent sous l'auto.
Ouais.
À l'intérieur, le thème de la turbine est aussi présent, notamment au niveau de la console centrale où il y a des petites ailettes qui sont installées. Et sur la planche de bord, deux choses étonnent. Le compte tour est gradué jusqu'à 60 000 tours en minute.
OK.
Et l'indicateur de température jusqu'à 2000 degrés Fahrenheit, 1093 degrés Celsius. C'est pas rien.
C'est pas rien. Bon, et c'est surtout un produit... Écoute, j'en parle encore parce que... Côté design, je considère que c'est une des plus belles voitures que Chrysler a jamais dessinées.
C'est un char extrêmement élégant.
C'est vraiment magnifique. Et en plus, on a intégré à cette voiture-là une technologie qui était franchement innovatrice et que je trouve dommage qu'on n'ait pas pu en profiter davantage. Le principe de fonctionnement de ça, d'ailleurs, c'était quoi?
Alors en fait, un moteur à turbine fonctionne généralement en trois étapes. Compression de l'air d'admission, qui fait monter la température de l'air, mélange avec du carburant et allumage, puis détente du gaz entraînant une roue à pales, la turbine,
okay.
Montée sur l'arbre de sortie. Les avantages sont nombreux, moins de pièces, 80% en moins selon Chrysler, lubrification simplifiée,
ouais.
Et moins de vidange nécessaire, possibilité d'utiliser différents types de carburant et absence presque totale de vibration. Alors par contre, parmi les défauts, on retrouve consommation plus importante, temps mort à l'accélération et de hautes températures de fonctionnement. Dans les faits, la quatrième génération de moteurs à turbine Chrysler, baptisée A831, demande à Chrysler de gros efforts d'ingénierie dans le domaine de la métallurgie. Le moteur développait seulement 130 chevaux, mais 425 livres-pieds de couple, avec un ralenti situé à 22 000 tours minute.
Ah oui, c'est ça. Parce que c'est difficile de s'imaginer tout ça, mais j'essayais de voir, est-ce que c'est un moteur qui offre beaucoup de couple initialement ou est-ce que c'est un couple qui est fort?
À passer un temps de justement le décalage un petit peu à l'accélération, après le couple, il est énorme.
Il est énorme, mais ouais. Il y a un délai.
Ouais,
donc, en situation de trafic en ville, c'est pas génial.
C'est un petit peu plus compliqué.
OK.
En fait, le moteur pouvait fonctionner avec du diesel,
ah ouais.
De l'essence... d'aviation, du kérosène, de l'huile de chauffage, de l'huile de friture et même du parfum. Mais pas de l'essence au plomb, qui était alors la plus répandue. En fait, tout ce qui est combustible ou presque, tu peux le mettre là-dedans. Anecdote rigolote, lors d'une tournée promotionnelle...
Le parfum neige, on pouvait mettre ça là-dedans l'hiver?
Ouais, certain. Lors d'une tournée promotionnelle au Mexique, le président mexicain Adolfo López Mateos conduira même un exemplaire marchant à la tequila.
Ah, t'es-tu sérieux?
Ah, le moteur était accouplé à une transmission Torque Flight modifiée, la turbine faisant elle-même office de convertisseur de couple.
Bon, cette voiture-là a été officiellement présentée comme un modèle 1963.
Ouais.
Mais bon, on n'a pas pu en acheter. Là.
Non. Alors, en fait, les cinq premières voitures sont construites à des fins de tests internes et de promotion. Une de ces cinq se retrouvera dans un film qui s'appelle The Lively Set avec James Darren.
OK.
La turbine est officiellement présentée à la presse le 14 mai 1963 à New York. Et ensuite, c'est la production des voitures clients de série, petite série, qui commence en octobre 1963 à raison d'une voiture par semaine. 50 carrosseries seront produites chez le carrossier Ghia à Turin. Elles seront toutes identiques. Extérieur, couleur turbine bronze. Toit vinyle noir, intérieur en cuir bronze. Une fois que les carrosseries sont fabriquées, elles sont envoyées chez Chrysler. Et là, sur une petite chaîne d'assemblage, les autos reçoivent le groupe motopropulseur, la turbine, puis les trains roulants, avant d'être livrés.
Mais là, tu me dis qu'ils fabriquaient les carrosseries en Italie.
Ouais.
C'est, essentiellement, Cadillac s'est inspiré de ça avec la Lante, quoi, 30 ans
bien
plus
après,
tard.
Bien après, mais à l'époque, Ghia était beaucoup associé à GM et Chrysler.
Ouais.
Et en fait, sur des petites séries comme ça, ça revenait beaucoup moins cher de faire ça par des carrossiers italiens qui travaillaient principalement à la main que de commencer à partir des chaînes d'assemblage et faire du stamping,
ouais,
des choses
comprends.
Comme ça.
Okay.
Donc, ça coûtait moins cher d'aller donner du travail en Italie, de faire revenir les voitures sur des bateaux que de les faire sur place.
Ce qui n'était pas nécessairement le cas avec la Lante, par exemple.
Non, ça, c'est une autre histoire
c'est
pour
ça.
Un autre jour.
C'est une autre chronique, c'est
oh,
ça.
Oh oui. La campagne de test commence en octobre 63 et durera jusqu'en octobre 66. Durant cette période, 203 personnes auront la voiture en prêt, chacune durant 3 mois.
OK.
En échange, elle doit maintenir la voiture propre et tenir un journal de bord. L'entretien a été réalisé par un technicien spécialisé dépêché par Chrysler. Et finalement, à la fin de ces essais, la turbine s'avérera fiable et les seuls défauts relevés par les essayeurs seront le délai au démarrage dont on parlait,
ouais,
une consommation élevée. Beaucoup apprécieront le bruit du moteur qui donnait un côté futuriste,
ouais, j'imagine,
à l'expérience. Et en fait, le programme est considéré comme un succès par Chrysler et la compagnie envisage, dans une étape suivante, de partir là vraiment sur une petite série. On parle de 500 exemplaires. Il y a un coupé fastback qui est dessiné. Et
ah ouais,
la compagnie s'apprête à partir une deuxième série de turbines qui serait produite pas à 50, mais à 500 exemplaires.
Mais ça n'a pas fonctionné.
Eh ben non. Et tout simplement parce qu'en fait, on commence à parler de pollution et le gouvernement américain commence à promulguer de nouvelles normes de pollution. Et la turbine ne passe pas les niveaux recommandés d'oxyde d'azote, le NOx. Donc là, le dessin du coupé qui était en cours de développement est recyclé et deviendra la Charger 66.
Ok.
Voilà, avec une toute nouvelle calandre. Et après 66, quand les essais routiers s'arrêtent, les 50 autos sont rapatriées chez Chrysler. Et là, elles sont presque toutes envoyées à la casse pour y être écrasées.
Ah, mon Dieu. Sacrilège.
Et parce qu'en fait, Chrysler considérait ses autos comme des prototypes et ne pouvait pas remplir les exigences légales pour rester sur la route, comme ça arrivera plus tard avec GM pour les EV1 dans les années 2000. Et chose incroyable, vous pouvez voir la destruction de ces voitures sur YouTube. Il y a une vidéo, vous tapez Chrysler Turbine,
ah, oui,
une vidéo de 11-12 minutes où les voitures sont mises dans des trucs, puis pilé.
Oh mon Dieu.
C'est un.
C'est
un crève-cœur absolu. Ah, ouais, à chaque fois que je vois cette vidéo, je. Et en
puis,
fait.
Puis le gars, il regarde à toutes les semaines, là, tu sais.
Non. Tous les ans.
C'est ça.
Aujourd'hui, il ne reste que 9 turbines en existence, dont 2 chez Chrysler, et toutes ne sont pas roulantes, comme tu le disais tout,
ouais,
à l'heure. Sur les 9, seules 2 sont entre des mains privées, les autres sont dans des musées, et parmi les 2 propriétaires privés, il y a Jay Leno.
Jay Leno, effectivement.
Qui a récupéré une voiture qui appartenait à Chrysler avant qu'il y en avait 3.
Et qui est fonctionnelle.
Oui.
Comme celle que vous allez retrouver au musée Henry Ford.
Absolument.
Alors que celle que Chrysler possède dans sa possession, que Chrysler possède dans ce qui était le musée Chrysler à l'époque, mais qui n'existe plus maintenant, elle n'était pas fonctionnelle.
Par contre, les voitures ont été données à des musées, mais des fois, il y a des moteurs qui ont été donnés à des musées, puis des voitures,
ouais,
sans,
ouais,
moteur,
ouais,
pour s'assurer que les voitures n'aille pas sur la route un jour. Et en fait, maintenant, de toute façon, si vous verrez jamais une Chrysler Turbine sur la route. Et pour finir, en fait, même si après le gouvernement américain a mis des nouvelles normes de pollution, Chrysler continuera le développement de sa turbine jusqu'en 79 et ira même à développer un nouveau modèle de Le Baron avec un avant spécifique pour la millésime 79. Et on ira jusqu'à 7 générations de moteurs. Ben, en 79, la compagnie luttait pour sa survie et le programme turbine absolument non essentiel passera à la trappe sans la moindre cérémonie. Mais quand même, quand on y pense, avouez qu'une voiture qui sentait la frite, ça aurait été sympa quand même.
Oui, quand même.
Ouais.
Plus qu'un K-Car 1982.
Et voilà.
Mais c'est quand même ce qui a sauvé l'entreprise au début des années 80.
Faut ce qu'il faut.
Voilà.
Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile. sans dérapage ni accrochage.
Cette semaine, un mini bilan des constructeurs, ben puisqu'il oui. s'agit de mini. Une division de BMW qui, contre toute attente, passe à travers des époques où la mode rétro est en déclin. C'est-à-dire que la Mini a été lancée en 2002 au moment où, bon, il y avait la Beetle qui avait été lancée, il y avait la Thunderbird, le Chevrolet SSR, le PT Cruiser, un paquet de modèles à saveur rétro qui ont été lancés tous en même temps. Il n'y a rien de ça qui a survécu.
Ouais.
Mais la Mini, oui.
Oui.
On a réussi à trouver une formule à succès chez Mini pour faire perdurer ce look rétro qu'on ne considère plus aujourd'hui comme un look rétro, puisque ça fait partie de l'image de marque depuis maintenant 24 ans.
Oui.
Et c'est intéressant de voir ça parce que, bon, évidemment, la marque s'est transformée depuis l'arrivée en 2002. Là. À l'époque, il y avait juste une Cooper trois portes.
Ouais, c'est ça. Mais maintenant, on remplit beaucoup de besoins. Là.
Qu'on trouvait grosse à l'époque par rapport à la Mini. Permets-moi de te dire que si tu prends une Mini 2002 puis que tu la mets à côté d'une 2024, tu vas la trouver très petite.
Oui.
Mais n'empêche, Mini est une division de BMW qui est importante pour le constructeur bavarois. C'est pas des chiffres affriolants. On en vend énormément du côté de l'Europe, et vous aurez compris pourquoi, parce que le format est assez compact.
Bon,
Mini est une marque qui est en plein renouvellement. On a essayé plein de trucs. On s'est permis d'essayer des trucs.
Oui.
Le Paceman.
Le Speedster. Tu te souviens du Speedster avec le design de ils avaient placé la casquette à l'envers.
Le Mini Coupé, le Roadster. On a essayé un paquet de trucs. Encore à ce jour, j'ai envie de te dire que la Cooper 5 portes, c'est la plus laide de toutes. Ah, moi, l'espèce de cadre de fenestration mal adaptée là-dessus, je suis pas capable. Mais sinon, de façon générale, je suis obligé de te dire que les designs sont une totale réussite.
Fidèle à la marque tout le long, à part certaines exceptions.
Je trouve ça dommage qu'on ait abandonné la Clubman récemment, qui pour moi était vraiment une voiture le fun. D'ailleurs, bon, évidemment, on a vendu les derniers exemplaires en 2022, puis ça s'est terminé là. Mais reste encore la Cooper 3 portes. Il y a encore de la manuelle pour très, très peu de temps. C'est disparu, c'est revenu. Là, je pense qu'après ça, c'est terminé. La Cooper S, John Cooper Works, c'est encore là. Puis évidemment, plus le temps avance, plus les... Je peux pas appeler ça des VUS, là, mais parce que j'aime ça. Moi, ils catégorisent ça comme des light trucks.
Pour les mêmes raisons de normes de consommation.
Bon, Countryman, bon, j'ai pu conduire le dernier Countryman là, il y a quelques semaines du côté de l'Europe. Puis oui, il a grossi, il est plus gros, il est plus lourd. C'est un BMW X1 avec une autre carrosserie, mais difficile de qualifier ça de camion. Enfin bref, on va conserver tout ça, mais là, on s'en vient avec beaucoup d'électriques.
Oui.
La Aceman, qui va être à mi-chemin entre une Cooper et un Countryman, donc peut-être juste un peu plus petit que l'ancien Countryman, c'est pas trop clair. La nouvelle Cooper qui va être dans du tout électrique, mais cette fois avec une autonomie beaucoup plus sérieuse.
Oui.
Le cabriolet va demeurer. Bref, tu sais, on essaie de faire perdurer cette marque-là, de lui garder une image qui est cool, de mettre des jouets funky à l'intérieur, une présentation qui est très unique.
S'il y a bien une marque qui peut bien réussir le tournant électrique, c'est Mini. Parce qu'on a un format qui est bon. On a l'occasion de montrer tout ce que BMW peut faire en termes d'agrément de conduite dans cette marque-là. Puis là, c'est connu, Mini. On les achète parce qu'elles sont agréables à conduire. D'autres raisons, mais moi, personnellement, je les apprécie particulièrement pour ça. Puis aussi, comme tu dis, d'innover avec des gadgets comme le nouveau système d'infodivertissement, le nouvel écran à l'intérieur, quand même loadé, là, si vous me permettez l'expression, de toutes sortes de petites affaires, de petits chiens qui bougent dedans, puis tous les personnages, etc. C'est vraiment, vraiment novateur quand même.
Puis c'est surtout que si tu avais mis ça dans une Chevrolet ou dans une Honda,
on l'aurait pas pris au sérieux.
On aurait trouvé ça quétaine.
Ouais.
Mais dans une Mini, c'est cool.
C'est ça.
Ils ont
long à dire pour sur la marque, sa réputation.
C'est un aspect qui est intéressant. Maintenant, Mini a eu des années difficiles au Canada. Là, on est en pente ascendante. Il y a eu des augmentations de ventes de 17,5% l'année passée par rapport à 2022. 4415 voitures ont été vendues chez Mini Canada contre 33497 aux États-Unis. Normalement, là, le ratio, c'est du 10 pour 1.
C'est ça.
Là, on est dans du 8 pour 1. Mm-hmm. Alors, le Canada aime les Mini par rapport aux Américains. Est-ce qu'on est surpris? Non, c'est
pas
certainement pas. C'est certainement pas aux États-Unis qu'on va vendre la Mini 3 portes en grande quantité.
Non.
mais j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de cette nouvelle Mini électrique, si le prix est bon, que l'autonomie est intéressante, ça pourrait connaître du succès. Mmh. Je crois au succès de cette future Mini électrique et au succès de la future Aceman qui sera aussi 100% électrique, comme je crois au succès de la Fiat 500. Puis la Fiat 500, évidemment, ça demeure une citadine,
oui,
mais qui a sa pertinence sur notre marché. C'est la 500E, exactement. C'est vraiment une voiture qui a sa place sur le marché, qui n'a pas d'équivalent. Et si elle est capable d'être fiable, oui, ben, elle pourrait connaître un succès intéressant. Tire-toi pas là-dessus, on n'a pas le temps. Mais bref, alors Mini, j'ai très hâte de voir ce qu'on va faire.
Oui.
Sauf que là, avec l'arrivée d'un Countryman électrique, de la Aceman et des Cooper électriques, ça va changer évidemment la donne sur ça. Et on ne tire pas un trait sur les modèles à combustion en passant. BMW est un constructeur qui croit énormément aux technologies diverses. On conserve des moteurs diesel du côté de l'Europe, dans les Mini.
Comme plusieurs constructeurs, on avait annoncé ça dans 2020-2021, qu'on a des plans de retirer la plug sur les véhicules à essence. Mais maintenant, je pense que comme les autres, Mini s'est révisé. On a quand même beaucoup de choix dans notre catalogue de moteurs. On peut faire quelque chose d'efficace, qui répond à des besoins, puis aussi qui demeure abordable tout en étant plaisant à conduire.
Bien, abordable, toute chose étant relative, parce que...
Il faut attendre pour voir c'est quoi que ça va être.
Abordable pour Louis-Philippe, là. Bon, c'est ça.
On s'excuse.
Bon. Alors, tu sais, puis c'est des voitures amusantes à conduire.
Ah oui.
Ça demeure un fer de lance chez Mini. C'est aussi le cas de la voiture que j'ai mis à l'essai cette semaine, moi qui est roi de la transition.
Oui.
On parle de la Mazda MX-5 2024.
Oui.
Puis là, tu vas me dire, OK, c'est la même auto que l'année passée, puis on met un plus gros écran. Attends un peu. On a pu mettre cette voiture-là à l'essai dans le Angeles Forest.
Une route que j'aime bien.
Bon, alors une route extraordinaire en périphérie de Los Angeles, dans les montagnes. Et avant de prendre le volant de la nouvelle MX-5, parce qu'il faut savoir que c'est un modèle 2024, mais il n'est pas encore chez les concessionnaires. Là. C'est encore quelques semaines avant que ça arrive. Eux ont retravaillé la direction, le différentiel de la voiture, oui, l'écran central pour qu'il soit tactile en mouvement, bon, etc. Là. Mais les ingénieurs, ce qu'ils m'ont dit là-bas, c'est on n'a pas touché au châssis, on n'a aucunement touché aux suspensions parce qu'on considère que la suspension est parfaite sur cette voiture-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'a pas réétudié, mais ils sont arrivés à la conclusion que la suspension faisait un boulot impeccable.
Pas le choix d'être d'accord avec eux, moi.
J'aime ça. Cependant, le défaut de cette voiture-là, selon eux, c'était un manque de précision de la direction. Puis écoute, moi, c'est un modèle en la matière de précision de direction.
J'ai pas le choix de te dire que
j'ai pris le volant de la MX-5 24 et je connaissais très bien les modèles des années antérieures pour te dire que ça répond tellement vite que j'étais déstabilisé. Il y a un écart considérable entre un 2023 et un 2024 au niveau de la précision de la direction puis du cercle de braquage parce que la voiture répond encore plus rapidement.
Okay.
Et le génie de ce qu'on a fait avec le différentiel arrière, évidemment, c'est un différentiel autobloquant, mais progressif des deux côtés. Ce qui veut dire que tu as besoin d'un appui en virage, ben ça sera pas on-off au niveau du transfert de couple sur l'essieu arrière. Ça va se faire de façon progressive à l'entrée de virage, à la sortie de virage. Alors, imagine-toi la distribution de couple constamment gérée comme ça pour que tu aies toujours le parfait appui puis la puissance parfaitement gérée quand la voiture n'est pas en ligne droite, essentiellement. J'ai trouvé ça fantastique. Ça fait une grosse différence. Ils ont changé le pignon du différentiel central, différentiel arrière, pour aller mettre un embrayage qui est sur le dessus du pignon avec des dents. C'est tout petit comme mécanisme, mais honnêtement, ça fait un travail extraordinaire. Et chapeau à ça, parce que ça change l'expérience de conduite.
Est-ce que cette technologie-là, avec le différentiel, tu as trouvé la voiture plus facile à conduire? Pas facile. Comme, est-ce qu'elle mordait moins, mettons, là, quand tu la poussais?
En fait, l'autre truc qu'on a ajouté, c'est c'est-à-dire qu'on a un mode de contrôle dynamique de stabilité mm-hmm. qu'on peut mettre en mode race.
Ah, OK, comme progressif lui aussi.
Donc, là, c'est pas complètement désactivé ou full on.
C'est plus tolérant.
Il y en a un qui est très tolérant. Je te dirais que moi, je l'ai mis en fonction tout le long. Puis des fois, là, la partie arrière glissait un peu, puis j'ai jamais senti que ça me freinait. Mm-hmm. Fait que c'est aussi un truc qui est bien géré. On a peaufiné la machine. Puis évidemment, moi, j'ai levé la main, j'ai fait le 35e anniversaire arrive bientôt. Allez-vous sortir de belles éditions, là, bleu, blanc, rouge, comme les premiers modèles? Et puis, ce qu'ils nous ont répondu, c'est on rêve d'une version vert forêt, British Racing Green. On fait la demande depuis des années. Le Japon veut pas, mais ça se bat. Énormément. Donc, attendez-vous à une édition spéciale
avec
l'année prochaine.
Avec un intérieur tan.
Ça serait magnifique. Ça serait magnifique.
Quand je faisais le Salon de Genève dans les années 90, on n'avait pas ce modèle-là en France et elle était disponible en Suisse. Je pouvais passer une heure dans la bagnole au Salon de Genève en vert, British Racing Green, intérieur tan, puis t'es comme... C'est parfait.
Ah oui.
Et je vais t'inviter chez nous, j'en ai une dans le garage, une 91. C'est pas que je veux t'écœurer, mais en tout cas...
Non, tu m'écœures pas du tout.
Ouais. Et les versions canadiennes, soit dit en passant, avaient cet avantage de ne pas avoir de sac gonflable, donc cet horrible volant qu'on avait aux États-Unis, mais qu'on n'avait pas chez nous. Deuxième voiture que j'ai mis à l'essai, parce qu'il faut faire vite, là, on change de registre. Un peu moins passionnant à conduire, mais ils ont quand même...
Tu veux parler de son différentiel aussi?
Non, je ne t'en parle pas.
C'est un meter de taxi plus que...
C'est ça. Toyota Camry 2025. Je vous en parle parce que c'est un segment de véhicule qui est sur son déclin. Là, on s'entend. Là, au Canada, les berlines intermédiaires ne se vendent plus. Ouais. Juste pour vous donner une idée. 290 000 Camry ont été vendus aux États-Unis l'année passée, 8 500 au Canada.
Wow!
Ouais.
Ça représente moins de 3% des ventes nord-américaines. Attendez, la Camry, c'est de loin la plus vendue de son segment. Ce qui veut dire que les Sonata, les Altima, les Accord, les Malibu...
Les Legacy...
Plus personne qui achète ça. Mmh. Tout le monde se dirige, au Canada du moins... soit vers des VUS, forcément, soit des voitures compactes qui ne le sont plus vraiment, parce qu'elles sont presque rendues des intermédiaires quand tu regardes la nouvelle Elantra, par exemple. Ouais. Ou on s'en va carrément dans des marques de luxe, là, BMW Série 3, Audi A4, ce genre de trucs-là. Mais la berline standard intermédiaire à l'américaine connaît beaucoup moins de succès chez nous qu'aux États-Unis, où elle a encore la cote, parce qu'aux États-Unis, on vend le même nombre d'accords que de Civic. Chez nous, c'est 8 fois plus de Civic. Alors, tu sais, c'est complètement un autre marché.
Ouais.
Mais la Camry a ce gros avantage à partir de 2025 d'être à la fois exclusivement hybride et d'offrir le rouage intégral. Et tenez-vous bien, si vous prenez une Camry de base à roue motrice avant, ça consomme moins qu'une Prius. On est rendu là. On est à 4,6 litres au 100 de moyenne combinée pour une Toyota Camry qui fait 225 chevaux, 232 avec le rouage intégral, parce qu'à ce moment-là, tu as deux petits moteurs électriques, un sur chaque essieu plutôt qu'un seul. Et si tu prends la Camry XSE 4 roues motrices avec les plus grandes roues, tu es à 5,3 litres au 100, ce qui est la même cote de consommation qu'une Accord hybride traction.
Ouais.
Donc, on l'a, mais complètement. Hey, on a retravaillé la carrosserie. Je ne peux pas dire qu'on a réinventé le bouton en quatre trous avec ça. Là. c'est design, c'est Toyota, très évolutif. À bord, c'est plus confortable, c'est un peu mieux sonorisé. Première fois qu'on peut avoir un toit panoramique sur une Camry, quel petit gadget, les écrans qui sont plus modernes, tu auras compris la formule, mais c'est essentiellement la même voiture qu'avant, les mêmes dimensions intérieures, un peu plus de confort. Suspension qui a été retravaillée, donc beaucoup moins de roulis qu'avant, mais ça n'en fait pas une voiture passionnante à conduire pour autant, mais juste plus équilibrée, avec un meilleur sentiment de sécurité. Puis là, je ne vous parle pas du Safety Sense 3.0, tous les gadgets que ça implique.
Ils sont tous là.
Ils sont tous là. Mais au niveau de la conduite, c'est moins instable. On a moins de tangage en vie. La voiture se conduit plus facilement. Elle est moins... Tu sais, c'était pas stressant à conduire une Camry dans le passé, mais non. Là, c'est une voiture très facile. Mm-hmm. Le mot d'ordre, c'est équilibre avec cette voiture-là, mais de pouvoir rouler à 5 litres au 100. Tu viens d'éclipser la compétition, mais complètement, puis je pense que ça, c'est le tour de force. Forcément que le prix est plus élevé. Là, ça, en excluant les frais de transport préparation, tu pars à 34 300 pour une SE traction, puis tu te rends jusqu'à 45 000 pour une XLE 4 roues motrices. À 45 000, tu as la version la plus équipée, ce qui est le cas aussi chez Honda avec l'Accord, mais l'Accord est à 2 roues motrices, alors que Toyota a le 4 roues motrices. Et tu ne peux pas, chez personne d'autre, combiner hybride et 4 roues motrices. Accord et Sonata sont offertes avec hybride, mais c'est du traction seulement. Et si tu veux une Sonata 4 roues motrices, oui, ça existe, mais pas en hybride. Donc, on a ce gros avantage-là chez Toyota, puis je pense que ça va connaître beaucoup de succès. Oui, notamment avec les chauffeurs de taxi.
C'est bon.
Alors, merci tout le monde d'avoir été là. De retour la semaine prochaine. On parlera la semaine prochaine du Land Cruiser de Toyota que j'ai pu mettre à l'essai aussi.
Ouais,
et toi, et levé d'embargo sur...
Le Macan électrique.
Le Porsche Macan électrique.
Oui.
T'as essayé aussi un bateau chez Porsche?
Oui, un bateau qui a le même groupe motopropulseur que le Macan électrique. Donc ça, c'est un petit complément à mon essai pour la semaine prochaine.
Louis-Philippe Dubé, chroniqueur nautique. Merci d'avoir été avec nous.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.